Alors, en cette semaine de Toussaint, Marie-Pierre, dans tous les médias chrétiens, on parle tout naturellement des saints.
Et plus encore, Jonathan, des saints de la porte d'à côté, selon l'expression du pape François. Tous ces bienheureux dont on ne dit pas un mot, comme le chante le père Lebel. Tous ceux-là qui n'ont jamais fait de miracle, mais qui n'ont cessé depuis des âges d'aimer sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Nous en avons probablement tous croisé, un jour ou l'autre, de ces humbles, reflets de la présence de Dieu. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, vous les rencontreriez cette semaine dans les colonnes de l'hebdomadaire La Vie, qui fait sa couverture avec « Les saints inconnus de nos vies ». Dans ces mêmes pages, Sylvain de Tocque, dominicain que nous connaissons bien ici à Toulouse, évoque le petit personnel de Dieu. Parmi eux, il peut y avoir une mère, une grand-mère, un voisin, un ami. Tous ces saints du quotidien qui, pour autant, ne sont pas irréprochables. La sainteté n'est pas un héroïsme, nous rappelle le père Abadi, professeur émérite à l'Université catholique de Lyon. Et Sylvain de Tocque de rajouter « Pas besoin de mener une vie hors sol, de planer dans la cèse. Non, il suffit humblement de se tenir chaque jour dans une grande amitié avec Dieu, de chercher à le connaître et à l'aimer, et à entrer dans la joie des béatitudes, comme je le lis dans les pages de Famille chrétienne. » Dans ce même journal, dont Olivier Quénardel, ancien père abbé de Cîteaux, nous livre une profonde et simple méditation sur cet évangile des béatitudes, évangile de Toussaint. Un texte exigeant mais tellement réjouissant qui chaque année vient nous réveiller dans notre torpeur automnale et de nous commenter alors comme autant d'étapes sur un chemin de liberté, chacune des sept béatitudes, une grande aventure sans cesse à recommencer car la Toussaint, c'est la fête de l'éternité.
Dans les essentiels de la vie, vous vous arrêtez cette semaine sur le sourire et sur un lumineux regard d'une jeune femme, Marie-Pierre.
Oui, Jonathan, elle s'appelle Laetitia, ce qui veut dire joie, allégresse. À 4 ans, elle disait qu'elle voulait être médecin pour les morts. Mais pour sa maman, la mort, c'était tabou. Elle ne voulait pas en entendre parler. Alors, la jeune femme suit des études de photographie et travaille dans différents domaines. Mais Laetitia n'est pas heureuse. À 45 ans, elle ose enfin passer le concours de thanatopractrice. Depuis 4 ans, elle se sent enfin à sa place. « Plus le temps passe et plus je suis heureuse, dit-elle. J'accompagne autant les vivants que les morts. » Auprès d'eux, elle comprend Dieu comme une présence silencieuse qui se manifeste par des signes.
60 ans après, que reste-t-il de Nostra Aetate ?
Une question cruciale en ces jours de commémoration où nous célébrons les 60 ans de la déclaration Nostra Aetate, texte fondateur du dialogue judéo-chrétien. Un texte adopté par le Concile de Vatican II, c'était le 28 octobre 1965. Dans une tribune qu'il publie dans La Croix, le théologien et philosophe Grégory Solari pointe du doigt le grand malentendu sur lequel, à son avis, repose ce texte. Et d'expliquer que deux omissions sont révélatrices, l'absence de toute mention de l'État d'Israël et le silence sur la Shoah. Une prise de position quelque peu dissonante au milieu du concert des commémorations. Au Vatican, c'est ce que je lis dans la Croix de ce jeudi, le cardinal Kurt Koch, préfet du dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens, a rappelé que Nostra Aetate est la boussole commune des relations judéo-chrétiennes. Un appel du pied, peut-être, alors que les relations sont aujourd'hui compliquées par le conflit au Moyen-Orient. Mais ne l'ont-elles pas toujours été ? S'interroge Michael Kor, l'envoyé permanent du journal à Rome. Dans La Croix toujours, édition de ce mardi, le grand rabbin Haïm Korsia célèbre et souligne les relations de proximité et d'affection qui unissent désormais juifs et chrétiens. Il appelle à persévérer dans cette fraternité et de rappeler la mémoire de Mgr Saliège, de Mgr Théas, des pasteurs Trockmé et Bockner, du grand rabbin Jacob Kaplan, qui ont si activement contribué à sauver trois quarts de la communauté juive de France. Ensemble, ils ont donné corps à la fraternité des religions, ce que Jules Isaac a si parfaitement retranscrit avec sa phrase demeurée célèbre. « Nous sommes passés de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. » Le père Alexandre Comte, délégué national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France et qui s'exprime pour sa part dans les colonnes du magazine La Vie, constate lui aussi qu'au niveau institutionnel, les relations entre chrétiens et juifs ont beaucoup progressé. On se connaît, on s'apprécie. Mais côté des fidèles, tant juifs que chrétiens, il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Un chemin balisé parfois de petites lumières. En Israël, Karma Ben Johanan, historienne des religions spécialisée dans le dialogue judéo-chrétien, enseigne le christianisme contemporain à l'Université hébraïque de Jérusalem. Je vous renvoie à l'édifiant parcours de celle qui vient de recevoir le prix du Mont Sion qui récompense une contribution au dialogue judéo-chrétien. Vous le lirez dans les colonnes du magazine La Vie.
Et puis, on parle aussi de violence.
Peut-on échapper à la violence ? Ainsi s'interroge Bruno Bouvet, rédacteur en chef de la Croix Hebdo, qui ne s'illusionne guère et même pas du tout sur la réponse. Les conflits qui ensanglantent notre monde, tout comme les chroniques de nos vies humaines, rendent la perspective parfaitement illusoire et hors de portée du commun des mortels. Et c'est peut-être bien pour cela, et qu'en dépit du désenchantement de notre terre, et je mesure mes mots, nos confrères de la Croix Hebdo nous plongent ce week-end dans la pensée de René Girard, l'un des grands penseurs du XXe siècle. Son œuvre est marquée par la question de la violence. Mort en 2015, il a consacré sa vie à en comprendre les mécanismes, en particulier la logique du bouc émissaire. Autant de phénomènes universels, intemporels et hautement inflammables, une réflexion éclairante pour notre époque inquiète. Et puis enfin, et je termine là, avec une pépite découverte sur le site du magazine La Vie. Un dialogue inachevé entre Albert Camus et le Christ. Le philosophe s'est toujours défendu d'être chrétien, mais sa vie durant, il voit à la figure du Christ une véritable vénération. C'est cette relation complexe et singulière que Véronique Albanel explore dans un essai et dans un entretien lumineux et passionnant mené par Priscilla de Selve, notre consoeur de la vie. Un entretien retransmis également sur la chaîne YouTube du magazine. Par sa lecture nuancée, Véronique Albanel ressuscite ainsi la figure de Camus et nous propose une réflexion précieuse sur la foi, sur le mal et sur la fraternité humaine.